Bienvenue à ce deuxième épisode de Par la bande, le talk show du 34e Festival Québec BD. Je m'appelle Raymond Poirier et j'aurai le plaisir de vous accompagner au fil de ce parcours thématique autour de la bande dessinée québécoise. Un parcours thématique parce que à chaque émission, je vous rappelle le concept, on prend un album, cet album nous inspire une thématique plus large qu'on explore en compagnie de l'auteur-autrice et en compagnie d'autres auteurs et autrices. Et cette semaine, la thématique, c'est le futur, mais le futur après la catastrophe. Un sujet qui a inspiré plusieurs albums qui ont été publiés dans les dernières années, dans les derniers mois, et qui nous amène dans une posture intéressante, dans une question de construction de monde, d'anticipation, d'imagination, donc de trouver la catastrophe, de voir de quelle manière elle va s'interpréter, de voir de quelle manière elle va également affecter l'environnement et l'humain qui vit à l'intérieur de cet environnement-là. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir de jaser, entre autres, avec Cab, entre autres avec Tristan Rouleau, mais l'invité principal de l'émission, c'est l'auteur de Créatures, donc premier tome, La ville qui ne dort jamais, qui est arrivé récemment chez Dupuis. JF, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, JF, peut-être positionnons-nous, on parle du futur après la catastrophe. Dans ton cas, la catastrophe, elle est surnaturelle et elle a lieu en plein cœur de New York.
Oui, exactement. En fait, on ne l'explique pas en détail, cette catastrophe dans l'album, mais on montre justement une ville qui a été ravagée par quelque chose, une sorte de tempête qui plane au-dessus de la cité. Et puis, on voit aussi énormément de je ne sais pas dire, des adultes qui ont perdu la boule, qui sont comme possédés ou qui ont un état un peu zombifié, mais surtout possédé en fait par quelque chose. Et il y a naturellement des créatures qui rôdent dans la ville.
Et c'est une idée que tu as développée avec ton complice, donc Stéphane Bette-BD au scénario. Tu es au dessin évidemment sur cet album-là. Et l'idée peut-être de plonger dans l'univers de créatures, c'est venu un peu naturellement au fil des conversations? C'est une idée de l'un ou une idée de l'autre?
En fait, c'est à la base, c'est une idée de Stéphane. C'est Stéphane qui a apporté le sujet sur la table parce que, on aime bien un auteur en particulier d'horreur, un auteur littéraire. Et commun. Et puis, on se disait, ça serait bien justement d'explorer quelque chose dans cet esprit-là, mais d'en faire quelque chose de complètement nouveau, là. Donc pas de faire d'adaptation de roman ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, je peux pas nommer cet auteur parce que ça révélerait un punch sur la bande dessinée. Mais on a planché là-dessus. Et puis, c'était justement pendant que j'étais en Europe, j'allais à un festival Quai des Bulles à Saint-Malo, avec lui, avec Stéphane. Et puis, c'est justement durant notre séjour qu'on en a discuté, on en a parlé. On a mis ça sur la table. Puis, on a mis les bases, finalement, de la série.
Et c'est une série qui, pour toi, s'éloigne quand même des registres dans lesquels on a eu l'occasion de te voir. Je veux dire, t'as donné beaucoup dans l'historique, Broadway, Liaison dangereuse, entre autres. T'as donné dans un peu de la science-fiction, White Crows, Le crépuscule des dieux, côté un peu mythologique. Dans ce cas-ci, t'arrives dans un récit un peu d'anticipation, un peu tendance horrifique. Est-ce qu'il y a un exercice de réinvention du trait, de réinvention de l'approche de travail quand on change de registre comme ça?
Oui, mais en même temps, moi, j'étais très, très proche du franco-belge, de toute l'école Spirou, l'école Dupuis. Et le principe d'avoir justement proposé notre projet à Dupuis, pour moi, c'était un peu de revenir à mes amours d'enfance, là, donc de revenir à quelque chose qui était plus proche de moi, je dirais. Par rapport à quand j'ai fait, par exemple, Le crépuscule des dieux, il a fallu que j'adapte à ce moment-là mon trait, mon dessin pour être un peu plus adulte que ce que je faisais d'habitude. Donc là, je reviens un petit peu plus finalement à comment je dessinais avant Le crépuscule des dieux. Donc avec une espèce de dessin rond, un dessin un peu plus grand public, vraiment dans le franco-belge, dans l'esprit franco-belge.
Est-ce que le naturel revient facilement ou au contraire, il a fallu travailler les réflexes qu'on s'est imposés, dans le fond, au fil des années?
C'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y a eu plusieurs moutures de design au niveau des personnages. Il a fallu que je trouve le bon ADN graphique de la série. Et puis, heureusement, on a eu quand même presque un an et demi de développement, de travail sur l'aspect visuel de l'album, du premier tome. Et donc de la série. Ce qui fait que ça m'a permis de creuser, puis de faire plusieurs essais, puis de montrer des choses à Stéphane, de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, puis même aussi de le présenter à l'éditeur, puis d'avoir du feedback de l'éditeur sur justement cet aspect graphique-là de tout l'univers qu'on allait mettre en place avec Créature.
Et j'imagine que ça devient d'autant important dans le contexte où, pour Créature, tu te retrouves aussi dans le journal Spirou. Mm-hmm. Et donc, subitement, quand on commence le travail, quand on plonge, l'album est en prépublication. Donc, ça apporte, j'imagine, un rythme de travail qui n'est pas le même que sur d'autres albums qui ne sont pas dans le contexte du journal.
Oui, sauf que là, dans ce cas-ci, le premier tome était déjà bien avancé. En fait, il était terminé quand il a commencé à être prépublié. C'est surtout pour le deuxième tome, où est-ce que là, j'avais une longueur d'avance, mais pas énormément, ce qui fait que mes dernières planches, je les ai terminées, pas en catastrophe, mais je les ai terminées exactement au moment où est-ce que le journal avait besoin de ces planches-là pour les passer dans le dernier numéro. Donc, oui, des fois, là, ça peut jouer sur notre rythme de travail. Bon, dans ce cas-ci, moi, je suis du genre à avoir des horaires là, planifiés un an à l'avance, puis je sais exactement à quelle date je vais remettre telle planche. Donc, ça n'a pas été trop un problème là, dans ce cas-ci.
Et on parle d'un récit, enfin, on n'est pas dans du 44 planches non plus, format album, c'est plus étendu. Ouais. Donc, ça veut dire que ça vous donne aussi un terrain de jeu, parce que Créature, c'est un récit d'action, il se passe beaucoup de choses, mais c'est un récit ambiant, et ça donne la place pour bien placer les intrigues et l'action elle-même aussi,
ouais, ben oui, puis... quelque part, New York, dans cet album-là, est aussi un personnage parce que on a fait énormément j'ai fait énormément de recherches, Stéphane aussi de ton côté, pour bien placer nos scènes à travers la ville et puis que ça soit crédible, que ça soit cohérent. Donc, il a fallu justement faire beaucoup de recherches, un peu comme du repérage de cinéma, donc aller placer nos séquences aux bons endroits. C'était quoi la question?
et côté espace, en fait, justement, tu sais, je t'amenais un peu là-dessus, parce que, exemple, l'album commence avec quatre planches muettes, on place vraiment... J'ai l'impression que tu t'es donné le temps de bien placer
l'action. Exactement, c'est vrai que les 70 pages nous permettaient de faire des grandes scènes où est-ce qu'on pouvait avoir des panoramas sur la ville, des scènes muettes, ce que je fais d'habitude de très peu en bande dessinée. Dans ce cas-ci, on pouvait avoir 3 ou 4 pages, 5 pages, juste pour mettre en place une atmosphère, une ambiance, puis de m'éclater un peu plus graphiquement à ce moment-là.
Et là, on vient de placer quelques bases que j'ai envie qu'on explore, en fait, avec d'autres invités au fil de l'émission. Mais peut-être avant de se lancer vers les discussions qu'on vous propose au fil de Par la bande, on vous invite aussi à découvrir des albums, et on va le faire cette fois avec Jérôme Vermette de la librairie La Liberté, qui nous propose quelques albums sur le futur, après l'apocalypse, après la catastrophe.
Parlons apocalypse en bande dessinée. L'apocalypse, elle commence à Montréal, dans le Mousquetaire, où une mouche noire sème la pagaille un peu partout dans la ville et court même le risque de faire gâcher le festival de Zaz. Donc, il faut appeler à l'aide le Mousquetaire, qui pour secourir la ville, c'est très drôle, et complètement à l'inverse comme ambiance de toutes les autres trucs que je veux vous proposer. D'ailleurs, donc, mes premiers titres qui m'est venu à l'esprit au Québec, c'était le Rédemption de Liftand, un western très dantesque. C'est aussi très expressionniste au niveau graphique, un cowboy solitaire qui traverse un Far West qui est ravagé par les 4 cavaliers de l'apocalypse. Notre cowboy va devoir se rendre jusqu'en enfer pour accomplir son destin. Brigitte Archambault, il y a 2 ans, a produit une bande dessinée que je trouve absolument brillante, le projet Chiatsung. Brigitte, qui questionne notre lien fusionnel avec la machine informatique, nous montre un personnage qu'on voit tout du long, qui est seul pratiquement tout le temps, qui a été élevé par son ordinateur, et c'est son ordinateur qui lui offre tous ses divertissements, qui la nourrit. Donc, Brigitte nous montre un peu ce qu'elle croit être un problème dans notre relation avec la machine et ce que ça crée comme problème. C'est très coup de poing, très cru. La Terre des Fils de JP, je suis maintenant rendu en Europe, chez Futuropolis, la Terre des Fils, où on suit 2 jeunes garçons qui ne savent pas lire et qui vont qui vont chercher quelqu'un qui peut leur lire le journal intime écrit par leur père. C'est un livre qui nous parle de transmission du savoir, d'expérience, de transmission de l'expérience humaine. C'est beau, c'est poétique, certes par moments sombres, parce qu'on est dans un post-apocalyptique, mais c'est porteur d'espoir. Porteur d'espoir, tout comme Soon, chez Dargaud, dans lequel on a imaginé une société post-écocide. On sait que c'est un des grands enjeux de notre société actuelle. Et donc, à travers une histoire de l'humanité, une histoire des sciences de l'humanité, on voit une humanité qui a failli être détruite, décider de travailler ensemble. Et ça inclut également tous les enjeux qui vont avec. Est-ce qu'on est d'accord ou non? Quel est le sacrifice qu'on doit faire individuellement, etc. C'est une œuvre que j'ai trouvée magnifique et elle aussi très poétique. Mathieu Bablet, avant de faire son brillant Carbone et Silicium, avait fait le tout aussi brillant Shangri-La, très sombre, très noir. Alors, une fois que la Terre a été détruite, la société vit dans un anneau stellaire et les gens sont entassés, les classes sociales sont extrêmement coupés au couteau. C'est un ouvrage sombre qui parle également non seulement de lutte des classes, évidemment, mais de spécisme et d'une manière qui peut être très difficile. C'est un album, certes sombre, mais qui est très percutant, franchement très bien écrit et brillamment dessiné. La fantasy nous a donné aussi quelques ouvrages qui s'étaient intéressés à l'apocalypse. Donc, je pense entre autres au classique « Le grand pouvoir de Schlinkel », écrit par Jean Van Am et dessiné « De main de maître » par Grégor Zwozinski, les deux, le duo qui avait créé Torgal. Donc, « Le grand pouvoir de Schlinkel », qui est un peu biblique, une figure christique, ni plus ni moins, mais dans un univers ravagé par les guerres et les maladies. Donc, ils ont imaginé une apocalypse assez percutante. Je ne voudrais pas spoiler, excusez-moi, divulgâcher, comme on dit, mais la fin est très, très nihiliste. Plus porteur d'espoir, il y aurait les épées de verre chez les humanoïdes associés, les épées de verre en 4 albums ou en intégrale, les deux existent, qui est un univers fantaisiste qui subit un réchauffement planétaire et donc les aventuriers, les personnages principaux sont à la recherche d'un autre lieu pour pouvoir poursuivre leur vie. C'est magnifiquement bien dessiné, c'est très très beau, c'est un univers d'une grande richesse et qui se termine avec un message d'espoir également. Donc, l'apocalypse en bande dessinée n'est pas totalement sombre. Elle questionne beaucoup le monde dans lequel on se trouve actuellement, mais peut être également porteuse d'espoir.
Et comme on l'a mentionné, cette semaine, à Par la bande, on amène JF à la rencontre d'auteurs et autrices qui ont exploré, à leur façon, la thématique d'un futur après-catastrophe. Et parmi ceux-ci, eh bien, il y a Cab, avec sa série Hiver nucléaire, qui nous paraissait un brin incontournable. Alors, il est avec nous. Bonjour, Cab.
Allô, comment ça va?
Très bien. Et Cab, évidemment, dans ton cas, tu nous amènes dans le Montréal, mais un Montréal d'un futur post-nucléaire, au cœur d'un hiver nucléaire, au bout du compte.
Ben effectivement, il y a eu dans l'hiver nucléaire, c'est un accident dans une centrale nucléaire qui est fictive, qui déclenche un hiver sans fin. Alors, plutôt qu'être après la catastrophe, sont également pendant la catastrophe. Fait que c'est une façon un peu d'aborder ça. La vie continue, mais ressemble quand même à la vie qu'il y avait avant.
Donc, on voit l'adaptation des gens sur cette catastrophe-là.
C'est
par rapport à la catastrophe.
C'est un peu, en fait, c'est si on s'amuse au jeu des parallèles, entre autres, ben, l'idée justement de la vie d'avant, de la vie d'après, comment on compose un peu avec ça, comment on reste ancré là-dedans, c'est présent dans Hiver nucléaire, des personnages qui cherchent justement à préserver un peu cet élément-là, autant que dans ton cas, JF, il y a des personnages aussi qui cherchent à reproduire une réalité familiale qui n'est plus possible non plus.
Oui, exactement. Dans Créature, il y a une petite famille, en fait, c'est Vanille puis son petit frère Minus, qui vivent avec leur mère, qui est dans un état un peu catatonique, là, on ne sait pas trop, elle est droguée, mais elle est comme un peu zombifiée aussi. Et puis, eux, ils veulent revivre cette espèce de cellule familiale-là, normale, là, dans revoir leur normalité familiale avec... donc, ils tentent ça dans cet album-là, dans Créature, donc...
Est-ce que ça paraît un peu incontournable d'aller chercher un peu ce type d'ancrage-là? Parce que pour le lecteur, ça nous permet de voir un peu comment nous se positionner, comment nous on s'adapterait, comment nous on vivrait dans vos mondes d'après la catastrophe?
Je sais pas, de ton côté, Cab, comment est-ce que tu l'as abordé?
Ben moi, en fait, mes deux personnages principaux sont vraiment des opposés avec leur réaction à la catastrophe. Il y a Flavie qui a l'air de franchement s'épanouir dans cet univers-là où est-ce qu'elle peut aborder son indépendance puis sa solitude comme un genre de trait qui est enviable. Elle est très indépendante, a réussi à tirer son épingle de tout ça, tandis que Marco, à l'opposé, et surtout dans le premier, Marco et toute sa bande vivent dans une espèce de déni hivernal durant lesquels ils font des parties puis ils essayent de sortir le moins possible, se faisant tout livrer. Fait que les deux personnages démontrent un peu, c'est ça, un côté qui refuse de s'adapter, puis quelqu'un qui s'est un petit peu trop adapté.
Et au cœur de ça, j'ai l'impression que ce qui est essentiel aussi, parce que vos récits, oui, bon, la catastrophe prend quand même de la place, mais c'est d'abord et avant tout des récits humains. Dans le fond, l'intrigue dominante, c'est les dynamiques dans le groupe d'enfants dans ton cas, les dynamiques dans le groupe d'amis dans le cas de Cab. On joue un peu avec ça et c'est, dans le fond, la catastrophe devient un peu le décor et l'enjeu, mais le cœur du récit, c'est l'aspect humain.
Oui, malgré que, par exemple, en Créature, on a un aspect fantastique aussi qui teinte énormément le sujet puis le récit, parce que, bon, on parle aussi de monstres, on parle aussi de gens qui ont été possédés par quelque chose. Donc, ça fait disons, on va plus loin un peu dans l'approche, là. OK, comment est-ce qu'on peut vivre normalement dans un monde comme ça? C'est un petit peu tiré par les
Est-ce
cheveux.
qu'on peut vivre
Est-ce qu'on
normalement
peut
dans
vivre dans... Exactement. Donc, c'est plus une histoire de survie, là, de survivalisme, si on veut.
Puis dans le fond, les rapports humains sont sous l'angle du survivalisme,
Ouais, beaucoup, oui. Beaucoup,
d'abord,
beaucoup.
tandis que dans le cas de Cab, on est un peu à cheval entre les deux, j'ai l'impression, dans ton cas.
Ils sont encore capables de manger, de
De se faire
vivre,
livrer.
de se faire livrer de la pizza.
Ouais, c'est comme l'économie tourne encore, pas à plein régime, mais de façon quand même relativement normale. Parce qu'un des thèmes du bal nucléaire, c'est la résilience des Montréalais, surtout face à un hiver qu'on déteste profondément. On essaie de vivre un peu dans un, nous autres aussi, dans un genre de déni hivernal pas très sain.
Et qu'est-ce qui attire dans la catastrophe, peut-être aussi, dans le fond, déjà d'entrée de jeu, dans le fond, est-ce que quand on aborde, quand on se dit okay, on va explorer une thématique comme ça, j'imagine dans un premier temps, il faut choisir notre catastrophe, voir un peu comment elle va impacter, mais j'imagine qu'il y a un plaisir après ça à essayer de trouver justement le bon événement, le bon enjeu qui va servir de démarrage, dans le fond, à la balance du scénario, de l'histoire.
Oui, ben dans ce cas-ci, moi, c'est plus Stéphane qui a fait toute cette démarche-là. Lui, il était très, très à fond dans toutes les théories là, comment, d'effondrement de société, d'effondrement civilisationnel, là, puis voir comment est-ce que les gens pourraient s'adapter à refaire l'agriculture urbaine. Puis, moi, je l'ai laissé aller dans ça, c'était pas mon truc. Moi, j'avais envie de le représenter graphiquement, mais j'ai laissé tout cet aspect-là à Stéphane, là, tout ce qui était comment est-ce que les gens allaient vivre dans une espèce d'univers post-apocalyptique.
Il reste que, en tout cas, j'imagine dans ton cas aussi, mais c'est un travail d'imagination, trouver un visuel pour mettre à une catastrophe qui est vraiment, vraiment le fun. On sait qu'on reste dans un univers qui doit nous rester familier, mais il faut rajouter cette petite touche-là de bizarre et d'étrange pour un peu lier tout ça. Moi, c'est une des choses qui m'a fait le plus plaisir dans l'hiver nucléaire, c'était de mettre la catastrophe en image, mais surtout en couleur.
Ouais, ben j'ai remarqué aussi que tu avais des personnages qui étaient comme un peu mutés ou il y avait des trucs. Est-ce que ça, tu l'expliques ou est-ce que c'est vraiment juste. Bon, les gens, ils commencent à changer un peu physiquement ou...
Je mentionne que la neige est radioactive, puis je pense que le lecteur est capable
De faire le lien.
de faire le lien ensuite, là.
Puis, il y a un plaisir, en fait, parce qu'on vous parlait d'environnement tantôt. Tu sais, Jeff, tu l'as mis à New York.
Oui.
Manhattan, c'est une référence que genre, tout le monde connaît, tout le monde l'a vu. Dans ton cas, Cab, tu l'as mentionné, c'est Montréal. Et encore là, ben, au Québec, je pense que c'est une ville qu'on a vue, soit on l'a visitée, soit on y habite, soit on l'a vue à la télé. On ramène dans le fond la catastrophe dans un contexte presque entre guillemets quotidien, mais où il faut se poser des questions par rapport à l'architecture, par rapport aux rues, par rapport aux édifices. Cab parlait de recherche visuelle tantôt, mais ben, j'imagine qu'il y a un travail d'imagination pour voir ces lieux-là post-catastrophe, à quoi ça va ressembler.
Oui, c'est sûr que moi, de mon côté, je me suis beaucoup inspiré là, de toutes les. Tout le cinéma sur le sujet, là. Les films, il y en a, si on veut avoir des références, là, on peut creuser. Même chose pour même des jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo post-apocalyptiques, là, où est-ce qu'il y a des visuels, il y a du travail graphique sur lequel je me suis un peu inspiré. En fait, j'ai pioché à gauche et à droite là, un peu mes inspirations dans ces éléments-là. Puis après, c'est de prendre des environnements connus ou non connus, mais d'aller voir sur place. Moi, avec Google Earth, j'allais faire du repérage, puis je prenais des environnements ou des points de vue en me disant, tiens, ça pourrait être intéressant si bon, ce building-là serait tout brisé, puis on pourrait avoir un point de vue de telle façon. Donc, c'est du travail, ouais, de recherche qui est bien le fun à faire, là, dans le fond. Là. Toi, de ton côté, Cab, est-ce que tu faisais beaucoup de recherches au niveau des. J'ai vu, par exemple, dans le troisième tome, on passe du côté de la rue Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, t'as vraiment repris des places qui existaient ou t'as fait une espèce d'assemblage?
Quand c'est nécessaire, je prenais les places qui existaient. Il y a beaucoup de remplissage de rues un peu générique de Montréal, là, parce que t'as pas besoin de se promener dans Street View pour tous les plans non plus. J'ai essayé de mettre des endroits reconnaissables le plus possible. Je pense que les lecteurs aiment ça. C'est plaisant aussi les modifier, comme tu disais, là, c'est comment les lieux sont affectés par nos catastrophes respectives.
Moi, je me dis d'un côté que le lecteur aussi peut des fois reconnaître des lieux en disant, hey, ça, c'est telle place, tel endroit où j'ai déjà été là. Puis là, il voit comment on l'a traité de façon catastrophique. Puis ça peut être vraiment un bonbon pour le lecteur.
Mais moi, dans mon cas, quand j'ai commencé, je n'étais pas supposée de faire un 2 puis un 3 au début, mais les idées me sont venues quand j'ai commencé à me poser la question. En fait, la question, ce n'était pas qu'est-ce qui va se passer, mais où est-ce que ça va se passer? C'est comme ça que l'idée est venue avec de le faire sur la montagne, sur le deuxième, puis d'aller à la centrale qui est une invention totale. Là. Il n'y a pas de centrale nucléaire à Montréal. Mais dans ce cas-là, ça a été les grandes forces, les motivations pour l'histoire, en fait.
Et tout ça dans le contexte, c'est peut-être avant de te laisser, Cab, dans le contexte de palettes qui sont quand même un peu similaires. On dirait que l'apocalypse ou le futur post-catastrophe ou nucléaire, en fait, vous appelez vers le vert, l'un et
Oui.
l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça reste la couleur dominante de vos deux albums.
Ben, moi, c'est une influence de Ghostbuster, là, c'est ça. Il fallait une couleur bizarre, quelque chose qui est étrange, donc qui venait d'un autre monde. Le vert, pour moi, c'était.
Je pense qu'on vient des mêmes influences.
Ouais.
On a grandi avec des barils de vert fluo. Je pense que ça a laissé un impact assez fort, là. Tu sais, moi, je vais me rappeler des barils jaunes d'un Simpson avec du jus vert.
Oui, exactement, phosphorescent.
Pour la centrale, c'est sûr que ça a été une influence. Puis c'est ça qui a aussi fait les ciels dans les vents nucléaires qui sont de couleurs complètement impossibles. Fait que ça a été une grosse influence, moi aussi, là, la slime et tout ce qui en découle.
Oui, puis le côté, dans le fond, hors du temps, hors du monde, parce que dans le fond, il y a quelque chose d'hors du monde qui est en train d'arriver, puis le vert, c'est pas une référence naturelle, j'imagine, qu'on a au niveau
Pas
des
dans le
ciels, au
ciel,
niveau
en
des
tout cas.
couleurs, c'est ça, c'est.
Dans les arbres, OK, mais
Oui,
dans le ciel,
le
tout.
ciel, c'est pas normal. Alors évidemment, on découvre Hiver nucléaire, donc le troisième tome qui a été publié il y a déjà quelques années. Merci beaucoup, Cab.
Merci
Merci,
beaucoup de
Gab.
l'invitation.
Et on poursuit donc dans ces discussions, dans ces échanges autour donc d'un futur après la catastrophe et une autre catastrophe qu'on a découvert dans les derniers mois, dans la dernière année côté bande dessinée, c'est le Convoyeur, donc premier tome Nymphe, qui est arrivé du côté des libraires et on a le scénariste de cette nouvelle série, Tristan Rouleau, qui nous rejoint. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Alors, en situant Le Convoyeur dans un premier temps, en fait, tu nous places dans un futur où essentiellement c'est le métal, dans le fond, qui devient un peu l'ennemi. Dans le fond, les humains deviennent un peu allergiques au métal. Le métal qui est même dans notre sang peut causer des mutations.
C'est ça, l'idée, c'est une bactérie qui s'attaque au fer, dont on ne connaît pas exactement l'origine, dont on découvrira peut-être l'origine au fil des albums de la série. Mais voilà, le but, c'était de trouver justement un prétexte à un univers post-apocalyptique quelque part. Hein, donc à un futur un petit peu décadent, dissonant par rapport à la réalité qu'on connaît aujourd'hui.
Et j'imagine qu'il y a un enjeu justement parce que il y a quand même de futur après la catastrophe. C'est un sujet récurrent qui est bien présent dans la bande dessinée et dans la culture populaire en général, en fait, de Mad Max à Seul et le reste. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on a l'impression qu'on trouve peut-être la bonne catastrophe? Parce que je pense que d'avoir le bon événement, c'est capital, c'est essentiel. Et d'aller trouver quelque chose qui n'est pas non plus présent tout azimut ou qui a déjà été fait mille fois.
Ben, c'est ça. Je pense que Jay va pouvoir aussi participer à ça parce que le but, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose d'original, d'amener quelque chose un petit peu de nouveau dans cet univers-là. Et puis, que les règles, justement, qui ont été quand même très, très, très bien définies par Mad Max, par exemple, on puisse les amener ailleurs, quoi.
Oui, parce qu'il y a vraiment des codes hyper connus, archi connus dans le monde des récits post-apocalyptiques. Donc, il faut être capable aussi d'amener une vision un peu différente ou même des fois, c'est juste dans des détails qui fait que moi, avec Créature, le fait d'avoir des environnements les plus réalistes possibles, même si c'est une bande dessinée tout public, on s'entend, là, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont lire Créature. Donc, j'ai quand même pris le soin de représenter la ville de New York le plus fidèlement possible, en détruisant une couple de parties à gauche et à droite, mais d'avoir des lieux qui étaient les plus réels, les plus réalistes possibles.
De l'ancrer un peu avec une réalité ou dans d'autres cas de l'éloigner peut-être aussi de cette Amérique-là dans le cas du convoyeur.
C'est un peu la même démarche qu'on a eue avec Dimitri Armand, c'était d'avoir un monde qui bascule, donc dont les racines sont encore présentes. JF, là tu parles de New York, nous c'est vrai qu'on est plus dans le sud de la France, avec justement cette petite spécificité de la vieille Europe, d'avoir des châteaux, d'avoir des bâtiments qui vont tenir sans avoir besoin de fer, du fer qui est dans les bâtiments plus modernes, dans les poutrelles d'acier et dans les ponts par exemple.
Oui, ça c'est intéressant.
Oui, effectivement, parce que si le convoyeur s'était passé à New York, on aurait une ville qui serait beaucoup plus ruineuse. Donc, dans ce cas-ci, l'Europe devient payante pour ce type de sujet.
Oui, c'est un bon, une bonne twist.
Oui, c'était ça. C'était intéressant d'avoir justement ce côté, d'avoir des gens qui sont avec des Nike au pied et puis et en même temps qui ont plus de métal, qui ont plus de fusils, qui ont plus d'armes, on va dire, modernes. Donc, un petit décalage comme ça. Il reste les tissus, par contre.
Et une fois qu'on a trouvé l'idée de départ, dans le fond, après ça, j'imagine qu'on est beaucoup dans la construction de monde. On a essayé de trouver une idée originale, une idée qui se fait pas nécessairement régulièrement. Mm-hmm. Dans le cas de JF, tu choisis de l'ancrer avec des mythologies existantes, mais encore là, il faut les tisser, ces liens-là, entre le monde qu'on va bâtir, les mythologies qu'on va chercher. Dans le cas de Tristan, ben au contraire, là, on est construit de A à Z quelque chose qui est avec une nouvelle mythologie. Donc, parlez-moi peut-être un peu de vos approches de travail, de comment vous avez abordé avec vos scénaristes ou vos dessinateurs votre construction de monde?
Moi, dans mon cas, c'est sûr que, comme je disais, je ne veux pas révéler c'est quoi la source de notre inspiration dans Créature. Vous avez juste à lire le bouquin, vous allez comprendre à la fin, à la toute fin. Mais grosso modo, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de visuels qui existaient déjà basés sur cette mythologie. J'ai essayer de m'éloigner le plus possible, malgré en gardant juste des éléments qui pourraient rappeler un peu ce qui avait déjà été décrit ou écrit sur le sujet. Et donc, c'est de bâtir, puis de finalement, c'est de s'inspirer, puis de faire quelque chose qui nous fait triper personnellement. Donc, moi, graphiquement, je le voyais bien au niveau du design de la créature principale qu'on voit sur la couverture, avec ses espèces de grandes tentacules, son œil central lumineux. C'était quelque chose qui était assez, je pourrais dire, c'était les premières images que j'ai eues en tête quand j'ai eu à designer la bête en question. Pour le reste, c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment, il n'y a pas de recette sur comment réaliser, comment construire des bons monstres ou des mauvais monstres.
Est-ce que c'est la même chose du côté de Tristan? Il n'y a pas de recette non plus?
Alors, non, un peu comme tu dis, JF, c'est-à-dire il y a des envies. Et donc, d'avoir... Il y a un des éléments du convoyeur qui a ramené un petit peu une touche de fun, parce que forcément, le post-apocalyptique peut avoir quelque chose d'un peu sombre, d'un peu crépusculaire. Et donc, c'était d'avoir ce côté, les mutations qui sont dues au fer dans nos cellules, qui se fait bouffer par la bactérie et donc qui nous oblige un peu à muter. Et donc, d'avoir des des humains qui développent soit des mutations vraiment horribles, mais qui peuvent aussi être des mutations amusantes ou des mutations qui donnent des nouveaux pouvoirs. Donc là, voilà, comme ça, avec Dimitri, on ouvre une petite porte dans notre univers qui n'est pas juste au niveau des décors, mais au niveau même des personnages. Mais le but, c'est ça. C'est une fois que comment dire, l'argument de départ est posé, après, c'est laisser l'imagination prendre le dessus, et puis tout en restant fidèle un peu à la logique de son univers,
Ouais.
de l'explorer, de le débroussailler, en fait, au fur et à mesure que les personnages vont évoluer là-dedans, quoi.
Ben, on voit que vous vous êtes éclaté là, au niveau du visuel, justement, des gens qui ont muté. Ça, est-ce que c'est Dimitri qui est allé à 100% selon son inspiration ou c'est toi qui l'as dirigé par rapport au
Alors, ça
visuel?
dépend. Il y a, je dirais, pour tout ce qui est personnage de d'arrière-plan, là, c'est vraiment Dimitri qui va meubler ses cases en
Ouais.
créant un petit peu toute cette faune. Par contre, pour tout ce qui est utile au scénario, là, je file des indications assez précises, justement, parce que j'en ai besoin.
Oui.
Si j'ai besoin d'une mutation particulière qui va avoir un rôle après pour l'évolution de l'histoire, bon, bah, c'est sûr que je vais préciser tout ça. Voilà. Le but, c'est tout ce qui sert l'histoire. Je vais le définir au millimètre. Et par contre, après, tout ce qui va ramener de la vie, de l'univers, ça va plutôt être le boulot de Dimitri. Comment vous bossez, toi et ton scénario, justement?
Ben, dans le cas justement des créatures, c'est sûr que ben, même au niveau du scénario, au niveau de la réalisation des planches, on est beaucoup en ping-pong, nous, énormément. Donc, au niveau du scénario, on le travaille à la base ensemble. Stéphane ensuite m'envoie tout ce qui est du découpage. On retravaille le découpage ensemble. Puis même chose pour au niveau des pages. Les pages que moi je réalise, même si je fais des fois des changements, ou j'apporte des modifications à l'action ou à la mise en scène, moi je le présente comme une proposition que je fais à Stéphane, qui lui ensuite peut me dire si ça passe ou si ça passe pas, parce que si ça sert mieux le récit, ben on l'utilise. Donc c'est vraiment il y a vraiment une espèce de chimie là entre scénariste, dessinateur, dans notre cas.
Ok, bah on fonctionne un petit peu pareil.
Ouais.
Finalement, c'est vraiment très proche. Moi, j'envoie un premier scénario qui sert de base à la discussion, en fait. Et à partir de là, Dimitri va m'envoyer ses storyboards. Je vais les commenter, je vais modifier certains textes, etc. Peut-être recadrer deux, trois trucs
Ouais, ouais,
qui
ouais.
sont aussi des propositions. Et puis après, Dimitri va reprendre ça et finaliser les pages.
Ouais, ben.
Donc effectivement, comme tu dis, il y a cet sport de ping-pong. Et je pense que ce qui se ressent au niveau des livres, en fait. Parce qu'on sent une vraie
Ouais,
homogénéité,
une vraie
finalement.
cohésion là, finalement
Ouais.
entre le récit puis le dessin. Parce que, puis souvent, moi, ce que je dis souvent avec Stéphane, c'est que Stéphane, c'est mon premier lecteur, c'est celui qui a le recul que j'ai pas sur mes planches. Donc, c'est lui qui va me dire, oh là, excuse-moi, mais je comprends pas cette case-là à cause de. Le personnage est peut-être le plan est trop serré sur le personnage. On devrait juste reculer un peu la caméra pour pouvoir mieux saisir l'action. Donc, lui est vraiment l'œil critique de mon dessin. Donc, je prends en considération son point de vue.
Ok, bah non, c'est vraiment la même chose. C'est marrant parce que donc moi côté scénariste c'est un peu ça. C'est Dimitri là le premier lecteur
Ouais.
et c'est marrant parce qu'on a des façons de voir le monde qui sont pas complètement identiques non plus et
Ouais.
pas exactement non plus les mêmes cultures et il est un peu plus jeune que moi aussi donc pas forcément les mêmes références et le récit s'enrichit un petit peu des retours. Il y a des choses qui pour moi sont naturelles parce que comment dire, il y a des choses qui font partie de ma culture populaire, on va dire,
Ouais,
que
ouais.
lui a peut-être jamais vu. Donc, c'est quoi ce truc-là? Ça vient d'où? Et tu bah quoi, t'as pas vu ça? Bah non. C'est quoi tes trucs de vieux là? Donc.
Est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, dans les décors ou dans les personnages secondaires que Dimitri a intégrés qui, toi, t'ont fait flasher sur hey, ça pourrait amener tel élément dans le scénario ou tel élément de plus dans l'histoire?
Alors ça, je dirais. C'est quelque chose que j'adore. J'adore quand
Ouais.
justement un personnage d'arrière-plan est tellement bien trouvé que tu as envie de donner plus de place dans le
Ouais,
récit.
ouais, ouais.
Je dirais que la façon de travailler avec Dimitri, c'est-à-dire qu'on va baliser un petit peu tout le scénario, tout le découpage au début. Et après, globalement, il va partir un peu dans sa grotte pendant 6 mois, 8 mois, et envoyer des batchs de pages de 10, 15 pages à chaque fois, et où je vais m'assurer que tout fonctionne bien, mais je vais pas pouvoir rebondir à ce moment-là sur des choses qui ont pu être dessinées ou inventées. Par contre, je peux le faire dans le tome d'après et à me dire, ah, tel personnage, peut-être il a été super bien posé, ça mériterait qu'il revienne. Mais je peux pas le faire là, comme tu dis. Le ping-pong, il marche vraiment au tout début de la création de l'album. Une fois qu'on a mis les bonnes bases, les fondations, après lui, il part dans son dessin et là,
Et
vraiment en solo.
La
après
latitude devient
les
entre les tombes, à la
c'est ça,
limite, où il y a un
exactement.
élément qui ressort, qui devient intéressant. Ben, OK, on pourrait l'exploiter un peu plus. Donc, il faut que vous ayez une vue à long terme, dans le fond, sur votre série, sur la mythologie que vous allez bâtir, sur les réponses que vous allez donner, mais avec assez de souplesse pour vous laisser inspirer par quelque chose qui va émerger naturellement, dans le fond, à l'intérieur du récit.
Oui, parce que nous, c'est vrai que sur Créature, on a fait un travail de fond. Moi, j'étais allé 2 mois à Nantes, à l'époque où est-ce que Stéphane habitait à Nantes. Et puis, on a travaillé vraiment sur les fondations du scénario à ce moment-là ensemble. Et donc, on a mis en place beaucoup d'éléments en se disant, bon, ben ça va peut-être être dans le tome 2, ça va être dans le tome 3, ça va être dans le tome 4. Donc, on a vraiment construit en amont. Tout le récit pour que ben justement on n'ait pas trop de surprises sur la suite, mais aussi pour déjà mettre en place des choses qu'on va découvrir dans le tome 2, qu'on a déjà mis ou qu'on a déjà juste mis des graines dans le tome 1. Donc,
Et j'imagine que c'est similaire du côté du convoyeur, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens à la fin du premier tome, où on place vraiment le monde, l'action, l'ambiance.
c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au début, moi, quand j'ai vendu le projet au Lombard et puis à Dimitri, c'était une trilogie, c'est-à-dire vraiment avec un truc en 3 actes, avec un développement, une introduction, et puis on développe le truc, on développe le truc. Et puis finalement, bah, le tome 1 a apparemment pas mal marché du tout. Donc Lombard m'a dit, est-ce que tu penses, développer un peu ton tome 2, etc., etc. Donc on va partir peut-être plus sur une série un peu plus longue que juste un 3 tomes. Donc tout ce que j'ai posé, ma fin à la série, etc., tout ça va rester. C'est-à-dire que dans ma tête, la série est conclue. Par contre, on va peut-être prendre des chemins de traverse pour développer certains aspects de l'univers et explorer un peu plus tout ça.
Alors, un univers qui va se construire encore et se développer et s'amplifier autour des albums. Donc, je le rappelle, c'est Le Convoyeur. Donc, premier tome d'ailleurs qui est arrivé tout récemment chez les libraires. Tristan Rouleau, merci beaucoup.
Merci, Tristan.
Merci beaucoup. Allez, très bonne journée.
Bye.
Et Jeff, de ton côté, on parle aussi de développement. Et à travers de tout ça, on n'a pas tant mentionné non plus tes personnages et protagonistes. Donc, parce que Créature, c'est aussi un monde d'enfants. Et dans le fond, c'est une BD qui est destinée à un public qui est un peu plus jeune, comparativement au Convoyeur dont on vient de parler. Donc, j'imagine que d'un côté, on met en scène des enfants dans un monde où les adultes sont absents, mais ça crée un peu une dynamique intéressante de repérage là, pour les jeunes lecteurs qui vont tomber
Oui,
là-dedans.
ben, tout à fait, parce que ça reste justement des petits groupes qu'on va suivre dans le premier tome, en tout cas. Et puis, c'est un groupe qui se forme, en fait. Donc, il y a Vanille, comme je disais, son petit frère Minus, qui va se fondre dans une bande de quatre gamins qui habitent dans un bunker, puis qui réussissent à survivre à travers justement ce milieu apocalyptique. Et donc, c'est vraiment l'histoire de comment ce groupe-là va se former, va se fusionner. Et il y a aussi quand même un adulte à travers l'histoire qu'on l'appelle Gros Taré, mais qui est un vieux bonhomme, on a l'impression que c'est un libraire ou en tout cas c'est un intellectuel, mais il n'a pas toute sa tête. Et puis c'est un personnage ambigu, c'est un personnage qu'on ne sait jamais s'il va vriller ou s'il ne va pas virer fou ou s'il ne va pas devenir menaçant pour les gamins à tout moment dans l'histoire. Et donc c'est ce petit groupe-là qu'on va suivre. Et en même temps, ben, comment est-ce qu'eux vont s'en sortir de cette situation? Parce que dans le fond, c'est ça qu'ils cherchent, eux autres, c'est d'être capables de sortir de New York parce qu'ils sont comme enfermés dans cet univers-là.
Et un univers, tu le disais, qui est fantastique, où
Oui,
on va emprunter aussi à
fantastique.
des mythologies qui sont un peu horrifiques, mais dans un contexte où on s'adresse aussi à un public qui est plus jeune,
Ouais.
j'imagine qu'il y a une part, dans le fond, d'adaptation du contenu pour avoir quelque chose qui est appréciable, qui est intéressant pour ce public-là, et de l'autre côté, de faire confiance aussi à ce public-là qui connaît aussi, qui connaît certaines de ces références-là, ouais, à tout le moins dans les jeux vidéo.
Les codes sont assez simples. D'ailleurs, c'est ça pourquoi justement on a placé ça à New York, entre autres, parce que c'est tellement une ville emblématique. Le cinéma s'est amusé à détruire 1 million de fois New York, donc on s'est dit, bon, ben, nous aussi, pourquoi pas. Et donc, en même temps aussi, pour des raisons de scénario, ça nous convenait, New York. Et puis, les jeunes, je crois que même ceux qui connaissent pas trop ces univers horrifiques ou univers post-apocalyptiques, ils vont se retrouver dans quelque chose qui vont peut-être qu'ils vont apprécier. Puis ceux qui sont habitués par le genre vont aussi trouver des éléments qui vont les surprendre.
Et en terminant, JF, en fait, est-ce que tu aurais des recommandations, des suggestions de lecture, peut-être de visions du futur qui t'ont inspiré, disons-le comme
oui,
ça?
Oui, oui, je peux parler de trois bandes dessinées, ou entre autres, séries one-shot. Dans ce cas-ci, le premier, c'est Ama de Frédéric Peters. C'est pas du post-apocalyptique du tout, hein. C'est vraiment une série en 4 tomes qui parle d'une expérience scientifique. et donc, c'est vraiment, vraiment inspirant. Moi, je trouve que Frédéric Peters, c'est un grand dessinateur de l'intime, mais dans des scénarios souvent hollywoodiens. Et puis, dans l'histoire de Ama, comme je disais, on suit une expérience scientifique à travers les yeux d'un personnage qui, lui, sa vie est tout à l'envers. Et puis, entre autres, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est technophobe, donc qui déteste la technologie, alors que c'est un environnement, c'est un univers qui est hyper technologique. Et donc, il y a vraiment des designs, je dirais, de mondes extraterrestres absolument hallucinants dans Ama. Et donc, c'est une lecture que je considère que ça vaut vraiment la peine de lire. Ensuite, Négaliode de Vincent Perriot, qui est une sorte de mélange, c'est un drôle de mélange de genre, mais qui fonctionne super bien. C'est comme si c'était le parc jurassique qui rencontrait Mad Max avec des accents de Moebius, ou des genres, une influence très Moebius. Et encore une fois, dans ce cas-ci, c'est un univers, ça c'est pratiquement un univers post-apocalyptique. C'est un univers où est-ce que sur Terre, il n'y a pratiquement plus de ressources. La ressource de l'eau est hyper contrôlée par une sorte de réseau qui est peut-être un réseau, une sorte de comme un peu comme dans la matrice, donc un réseau qui prendrait possession de l'humanité. Et c'est vraiment un mélange de genres assez intéressant. Les scènes d'action sont absolument hallucinantes. Je vous dis tout de suite, là, c'est du grand, grand spectacle. Et c'est une histoire, un seul tome, donc il n'y a pas de suite à avoir. Et puis, comme troisième suggestion, c'est le Château des Étoiles, parce que moi, je suis un grand amateur de conquête spatiale. Et avec le Château des Étoiles, c'est finalement la conquête spatiale au 19e siècle, donc dans un esprit très Jules Vernesque, encore une fois, une bande de gamins qui participent à l'aventure. Mais donc, sur 5 tomes jusqu'à présent, je crois qu'il va y en avoir un 6e prochainement. On suit finalement l'exploration de spatiale, mais selon les connaissances scientifiques du 19e siècle. Donc, à l'époque, on pensait qu'entre les astres, il y avait une substance qui s'appelait l'éther, et puis que c'était cette substance-là qui permettait aux astres de tenir en place et de bien... bien se mouvoir dans l'espace. Et donc, dans la série Château des Étoiles, c'est qu'ils découvrent comment manipuler cette essence-là d'éther pour pouvoir voyager dans l'espace. Et c'est vraiment rigolo. C'est vraiment une vision très rétro-futuriste, très science-fiction rétro.
Alors, JF, merci beaucoup pour ces suggestions.
Ça fait plaisir.
À découvrir à côté de créatures, si ce n'est déjà fait.
Ça marche.
Alors, merci à vous tous et toutes et à l'équipe de la Maison de la Littérature de nous avoir accueillis pour donc ce deuxième épisode de Par la Bande, donc le talk show du 34e Festival Québec BD. Et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. On va parler de Western. Alors, bonne semaine à tous et à toutes.